y a quelques semaines, au milieu de cette période qui s'étend entre la fête de Pâques et le dimanche de la Pentecôte, nous savons aujourd'hui, la liturgie nous avait fait entendre une lecture évangélique, plusieurs lectures évangéliques même, qui étaient tirées d'un passage de l'évangile de Saint Jean, où l'évangéliste nous raconte comment Jésus était monté à Jérusalem, d'abord secrètement, mais ensuite manifesté dans le temple, à l'occasion de la fête des tabernacles. Cette fête, il commémorait le séjour d'Israël dans le désert, qui rappelait par la de ce fait l'eau vive que Moïse avait fait jaillir du rocher. Et cette fête, au cours de laquelle les Israélites, au cours des siècles, en commémorant cet épisode de la traversée du désert sous la conduite de Moïse, pendant quelques jours habitaient sous des tentes, dans des cabanes, pour rappeler ce séjour au désert. Et aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'entendre appartient au même passage de l'évangile de Saint Jean. Il en est le cœur, si on peut dire. Il nous raconte comment le Christ, au cours de cette fête des tabernacles, le dernier jour le plus solennel, avait annoncé qu'il allait donner cette eau vive qui jaillirait de son sein, qui jaillirait de lui-même, de son corps glorifié. Il annonçait par là même cette effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et pendant d'une certaine façon, pendant tout le temps pascal, nous avons eu des rappels discrets de cette eau vive que le Christ répandrait sur ses disciples. D'abord sur ses apôtres et ensuite sur tous ceux qui adhéreraient, qui accepteraient leur message. La fête de la Pentecôte aujourd'hui, la fête de la Sainte Cinquantaine, au terme de 50 jours donc qui séparaient Pâques de ce jour, la fête de la Pentecôte célèbre ce don du Saint-Esprit aux hommes, cette descente du Saint-Esprit d'abord sur les apôtres en ce jour, mais ensuite sur toute l'Église. On peut dire que c'est une fête de plénitude. Cette fête de la Pentecôte nous évoque tout le dessein de Dieu et tout son accomplissement. Certes, le dessein de Dieu ne sera définitivement accompli que lorsque toute l'humanité, au dernier jour, aura pu recevoir ce don de l'Esprit Saint, aura pu recevoir ce don qui accomplit tout le dessein de Dieu, par lequel cette volonté de Dieu de communiquer sa propre vie à l'homme sera pleinement réalisée. Mais en ce jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, tout était déjà potentiellement accompli. Le Saint-Esprit était réellement donné à l'humanité. Et toute l'histoire du salut, depuis la création de l'homme jusqu'à ce jour de la première Pentecôte, toute l'histoire du salut était l'histoire des différentes étapes, des différentes interventions de Dieu dans l'histoire des hommes pour préparer ce don qu'il allait leur faire. À travers tout le Testament, nous voyons toujours à l'œuvre de puissance de Dieu, si l'on peut dire, sa parole et son esprit. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui, au jour de la Pentecôte, était si répandu sur les hommes, était déjà présent, d'une certaine façon, dans toute l'œuvre de la création et dans toute l'histoire sainte, dans toute l'histoire du peuple d'Israël qui annonçait, qui préparait ce don définitif. Mais cependant, le Saint-Esprit n'est pas encore donné à tous les hommes. Comment ? La parole de Dieu et l'Esprit Saint, ces deux puissances divines qui était à l'œuvre tout au long de cette histoire sainte, se manifestait-elle? La parole de Dieu, qui est son Verbe, la parole de Dieu, dès l'origine, s'est montrée créatrice. Elle exprimait la pensée volonté de Dieu, ce que Dieu voulait que les choses soient. Mais le caractère personnel, cette pensée divine, plutôt même de cette parole divine qui exprimait la pensée du Père, n'était pas clairement révélée. Et puis, dès le premier jour de la création, on voit le Saint-Esprit qui plane sur cette création et déjà lui est donné ce nom de souffle, car le mot que nous traduisons en français par esprit, en fait, a son origine un terme hébraïque, ensuite traduit par un terme grec, qui tous les deux signifient le souffle. La parole, voyez-vous, c'est ce qui exprime la pensée de celui qui parle. Et le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui finalement s'est manifestée incarnée et s'est manifestée dans le Christ, cette parole de Dieu, oui, exprime ce que Dieu veut que les choses soient et fait qu'elles soient. Mais l'Esprit Saint, lui, est le souffle de Dieu. Et entre la parole et le souffle, eh bien, il y a le rapport qu'il y a dans notre expérience quotidienne entre notre parole humaine et notre souffle humain. La parole, notre parole à nous, exprime aussi notre pensée, exprime notre vouloir, exprime ce que nous désirons que les choses soient d'une certaine manière. Elle n'est pas créatrice, bien sûr. Et notre souffle est ce qui donne à la parole la possibilité d'être entendue. C'est notre souffle qui anime notre parole, qui fait que devient une parole vivante, une parole qui porte. Eh bien, au sein de la Trinité sainte, c'est ce que sont la seconde et la troisième personne de la Trinité. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu et l'Esprit de Dieu. Mais la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est aussi cette parole que Dieu a adressée à Moïse sur le Sinaï et qui formulait la loi divine, ce que Dieu voulait que les hommes fassent, la manière dont Dieu voulait que les hommes se comportent. Et cette parole donnée par Dieu à Moïse avait été écrite sur des tables de pierre. Et les Hébreux avaient reçu cette parole de Dieu, mais ils l'observaient au fond parce que s'ils l'accomplissaient, Dieu se montrait favorable. Dieu les récompensait par la prospérité terrestre d'abord. Et s'ils y manquaient, eh bien, au contraire, Dieu les châtiait par l'invasion de leurs ennemis, par l'exil, même parfois. Donc cette parole de Dieu était quelque chose qui était encore extérieur à l'homme. Seulement, dans l'Ancien Testament, on voit aussi que cet esprit de Dieu, ce souffle de Dieu, ce souffle associé à l'œuvre de la création, intervenait aussi dans la vie des hommes. On lisait hier au Vêpres un passage de l'Ancien Testament qui nous raconte comment un jour on est venu prévenir Moïse justement qu'il y avait dans le camp, c'était encore au désert, quelques hommes qui s'étaient mis à prophétiser, c'est-à-dire non pas simplement à enseigner la loi comme quelque chose d'extérieur, mais qui s'étaient mis à parler au nom de Dieu et qui étaient animés par le souffle de Dieu, dont la parole était remplie de ce souffle de Dieu. Et Moïse l'était lui aussi. Mais on est venu annoncer cette chose à Moïse comme quelque chose d'anormal, comme si c'était empiété sur les prérogatives de Moïse lui-même, le législateur par excellence d'Israël. Et Moïse a cette réponse au premier abord étonnant, mais je souhaiterais que tout le peuple puisse prophétiser, que tout le peuple soit animé ainsi par l'Esprit de Dieu. Seulement dans l'Ancien Testament, justement, il n'y avait que quelques hommes. comme nous le disons encore dans le symbole, dans le symbole de la foi, Dieu a parlé, le Saint-Esprit a parlé par les prophètes. Oui, le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, se manifestait par les prophètes, c'est-à-dire par un certain nombre d'hommes choisis qui parlaient véritablement, animaient cet esprit. Ne se contentaient pas de transmettre une loi extérieure à laquelle on obéissait, soit par crainte, soit par espoir d'être récompensé. Mais c'était simplement quelques hommes choisis. Et un autre texte de l'Ancien Testament que saint Pierre déjà avait répété à ses auditeurs, aux Juifs, au lendemain le jour de la Pentecôte même, quand il leur a expliqué ce qui s'était passé en ce dimanche de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Les prophètes, et spécialement quelques-uns d'entre eux, avaient annoncé qu'à l'époque messianique, le Saint-Esprit descendrait sur tous les hommes, que tous les hommes seraient animés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne se contenteraient plus d'obéir à Dieu en suivant une loi qui leur venait comme de l'extérieur, une loi écrite sur des tables de pierre à laquelle on obéissait par crainte ou par désir d'un espoir, d'une récompense, mais une loi qui serait inscrite dans les cœurs, qui inspirerait toute la conduite de l'homme du dedans, par un désir, par une envie d'accomplir ce que Dieu voulait, ce que Dieu leur manifestait ainsi intérieurement. Et c'est cela que le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, est venu accorder aux hommes. Le Saint-Esprit, en descendant sur les hommes, donnait aux hommes la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu, non plus comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose qui devenait en quelque sorte l'âme de leur âme. Et c'est cela qui est donné aux chrétiens au baptême. Si le baptême est cette eau vive qui, comme le disait le Christ, la Samaritaine, dont nous disions aussi le récit de son entretien avec le Christ lors de la mi-Pentecôte, au milieu de ce temps de la Sainte Cinquantaine, bien, cette eau vive est ce qui nous donne intérieurement, ce qui jaillit dans notre cœur pour nous donner véritablement le sens et l'envie d'accomplir ce que Dieu veut, qui nous manifeste ce que Dieu veut, mais en donnant en même temps le désir intérieur de l'accomplir, parce que nous aimons non plus seulement les récompenses que Dieu peut nous donner, les récompenses plus ou moins extérieures, mais nous aimons cette volonté de Dieu qui finalement est amour. Car cet Esprit Saint qui nous est donné, qui est donné aux chrétiens dans le baptême depuis le jour de la Pentecôte, c'est cet esprit d'amour, cet esprit d'amour véritable, d'un amour qui est don de soi, qui est à l'imitation de ce qui est la vie des personnes divines, de Sainte Trinité, complètement désappropriation de soi pour se donner à l'autre. Cet amour dont le Christ disait dans son discours après la scène, il n'y a plus de plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime. Donner sa vie, certains sont appelés à la lettre, les martyrs, et tous ceux qui se sacrifient pour les autres dans leur vie elle-même. Mais donner sa vie pour son prochain, c'est aussi l'accepter tel qu'il est, c'est accepter ses défauts, c'est accepter les injustices dont nous sommes victimes de sa part, de ne pas cesser de l'aimer, même lorsque le prochain, d'une manière ou d'une autre, semble nous nuire, parce que nous avons au cœur cet amour véritable qui est désir de se donner, qui est désir de rompre avec tout égoïsme, avec tout désir, tout souci, se replier sur soi-même, se protéger soi-même pour se donner aux autres. C'est cela que l'Esprit Saint, ce souffle de Dieu, vient sous le Nouveau Testament du vieux Pentecôte, communiquer à tous ceux qui l'acceptent, à tous ceux qui veulent bien recevoir ce don de Dieu et le faire fructifier en eux. Tous les chrétiens le reçoivent au baptême, d'autres hommes aussi qui ne peuvent pas connaître malheureusement le Christ, malheureusement l'Église, le reçoivent, on peut l'espérer d'une autre manière, que Dieu ne nous a pas révélé. Mais c'est ce souffle de Dieu, c'est cet élan de Dieu qui nous transforme ainsi intérieurement. Et c'est cela que nous célébrons en ce jour de la Pentecôte. Cette venue de l'Esprit Saint, du souffle de Dieu dans nos cœurs, pour nous donner vraiment le sens, le goût, l'amour de cet amour véritable qui nous fait participer à ce que Dieu est. Non pas seulement en image, non pas seulement en ressemblance, mais c'est quelque chose de Dieu, c'est quelque chose de divin, quelque chose d'incréé qui vient habiter dans nos cœurs, qui se mêle à notre intelligence, à notre volonté, pour ce que notre action, dans la mesure où nous sommes vraiment animés de cet esprit, devienne quelque chose qui n'est plus simplement humain, mais divin. Cela éclate dans la vie des saints. Nous voyons comment ils sont pénétrés, inspirés par ce souffle de l'esprit. Mais plus humblement dans nos vies, eh bien cela doit aussi se manifester. C'est dans la mesure où nous agissons ainsi, inspirés par ce souffle divin, par ce souffle de l'amour véritable, que nous sommes vraiment des chrétiens. Que le Christ vit en nous, que nous sommes véritablement unis à lui, car c'est par sa sainte humanité élevée dans la gloire au jour de l'Ascension, c'est de cette sainte humanité du Christ que cette vie, que cet Esprit Saint, que cette vie divine se répand dans nos cœurs. Et elle nous rend semblables à lui, elle nous unit vitalement à lui, non pas d'une vie physique, matérielle, mais d'une vie spirituelle, mais ce qui est spirituel est tout aussi réel et plus réel que ce qui est simplement physique. Oui, c'est tout cela que la fête de la Pentecôte vient nous faire célébrer chaque année. Elle doit nous rendre toujours plus conscients de ce qu'est notre véritable vie chrétienne. C'est une vie qui ne consiste pas à obéir à des préceptes extérieurs parce que si on les accomplit, on sera récompensé, si on ne les accomplit pas, on sera puni. Non. La vie chrétienne, c'est être animé d'un amour véritable. Tout faire par cet amour qui est vraiment l'âme, qui doit devenir l'âme de notre âme. Bien, demandons à l'Esprit Saint de nous rendre toujours plus conscients de cela et soyons dociles à son inspiration, soyons dociles à ce mouvement intérieur, à ce souffle intérieur qui nous communique et qui doit animer toute notre vie. Au Père, au Fils, à son Esprit Saint, soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.